vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qu'il adviendrait de notre planète et par conséquent de l'humanité si soudain, en un simple claquement de doigts, la totalité des arbres de la Terre venait à disparaître? Les arbres étaient présents bien avant que l'homme ne soit créé. Ils sont indispensables à la vie et ce sont pour nous des compagnons vitaux. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de commencer par un petit test de culture générale biblique. Are you ready? Savez-vous quand dans la Bible, le mot, alors n'allez pas sur votre téléphone, ça c'est de la triche, hein. Savez-vous quand dans la Bible, le mot arbre apparaît pour la première et la dernière fois? Je vous donne la réponse. La première réponse se trouve dans le premier chapitre de la Bible et la deuxième réponse se trouve dans le dernier chapitre de la Bible. Voici ces deux textes. Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit que la terre, on a failli le lire tout à l'heure, on s'est arrêté au verset 2, j'ai dit ouf. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres qui portent du fruit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 2, au milieu de la grande ville se trouve un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Cet arbre de vie, il n'est pas comme les autres, il est singulier, il est particulier. Et lui n'apparaît qu'au deuxième chapitre de la Genèse. Et sa dernière vocation, nous venons de le lire, c'est dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et à propos de cet arbre de vie, il y a quelque chose qui pourrait passer totalement inaperçu et qui, à mon humble avis, n'est pas un détail. Si on met en vis-à-vis, vraiment en face-à-face, la première évocation de l'arbre de vie et la dernière évocation de l'arbre de vie, c'est une parenthèse que j'ouvre là, hein, on se rend compte que dans les deux cas, l'arbre se trouve au milieu. Au milieu. La place qu'il occupe est au milieu. Genèse 2, verset 9, le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin. Dans Apocalypse, nous l'avons lu tout à l'heure, et nous avons lu que l'arbre de vie se trouve au milieu de la grande rue de la ville. L'arbre de vie est toujours au milieu. Il est incontournable, on ne peut pas ne pas le voir. Sa présence est manifeste aux yeux de tous, c'est un arbre central. On ferme la parenthèse pour arriver au sujet de notre réflexion. Voici une deuxième question de culture générale. J'ai fait appel tout à l'heure à 3 ou 4 jeunes, si vous pouviez vous avancer, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner ça, attendez. Y aurait-il... Alors là, accrochez-vous, hein. Seuls les meilleurs auront une réponse. Y aurait-il, toujours dans la Bible, un autre arbre qui ne serait ni l'arbre de la vie, ni l'arbre de la connaissance, mais qui apparaîtrait lui aussi dans la Genèse et apparaîtrait aussi dans l'Apocalypse, c'est-à-dire présent sur la terre et présent plus tard dans les cieux? La réponse est oui, cet arbre existe. Qui aura la rapidité de me dire de quel arbre il s'agit? Plus fort? Non. Allez, allez, allez. Pardon? Non plus, ça a failli, mais c'est... Oui! J'ai entendu là-bas. L'olivier. Vous venez de me donner sur un plateau le titre de notre réflexion de ce matin. l'olivier. Chapitre 1, généralité. D'abord, les textes qui nous le présentent. Genèse 8, sur le soir, Genèse, hein, début de la Genèse, sur le soir, la colombe revint vers Noé avec un rameau d'olivier frais dans le bec. Et Apocalypse, chapitre 11, ce sont là les deux oliviers et les deux porte-lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, que dire sur cet arbre ? Plein de choses, mais en tout cas, dire qu'il est bien connu pour sa longévité. On parle de 2000 à 3000 ans. Un olivier peut vivre jusqu'à 3000 ans. Son bois est toujours vert et certaines de ses caractéristiques ne sont pas communes du tout. Par exemple, les feuilles de l'olivier. Sous l'effet de la pluie, figurez-vous qu'elles ont la faculté d'allonger leurs cellules pour absorber un maximum d'eau. À l'inverse, en cas de sécheresse, elles verrouillent leurs microstructures pour réduire drastiquement leur perte d'eau et sauver la vie de l'arbre. Après la feuille, la racine. Alors ces racines, elles ont une puissance d'absorption absolument remarquable. Je ne sais qui s'y est amusé, mais cette puissance a été mesurée. Figurez-vous que la racine de l'arbre est capable d'exercer une force d'aspiration de l'ordre de moins 25 bars. Comme ça, ça ne nous dit rien, mais avec une comparaison, on se rend compte que c'est remarquable puisque les autres arbres ont de la peine à arriver à moins 15. Bah. Il existe toute une variété d'oliviers, mais dans ce grand groupe, on fait la distinction entre l'olivier sauvage, qui est appelé un oléastre, ceux qui font des mots croisés doivent connaître ce mot, oléastre, et l'olivier cultivé, que l'on appelle l'olivier franc. Oléastre pour l'olivier sauvage, olivier franc, pour l'ensemble des variétés cultivées d'olivier. Après la feuille, après la racine, un mot sur l'huile. L'huile d'olive est la meilleure huile alimentaire connue. Ses bienfaits curatifs ont été depuis longtemps démontrés. Alors là, je lis parce qu'elle est riche en vitamines, elle agit sur le cholestérol, elle soigne la peau, elle a des vertus cardiovasculaires, diurétiques, vasodilatatrices, antibiotiques, et j'en passe. Son bois. Bah, déjà, on aime bien avoir des arbres dans son jardin, mais enfin, son bois, on s'en sert en décoration pour toutes sortes de bibelots. On s'en sert même pour faire des ustensiles de cuisine. On doit être nombreux à avoir des saladiers, hein, en bois d'olivier ou des manches de couteau. C'est un très bon bois de chauffe, et figurez-vous qu'en travaillant mon sujet, j'ai appris qu'en Espagne et en Italie, on récupère les résidus de la fabrication de l'huile pour fabriquer, devinez quoi, de l'électricité. Ça tombe bien. Tout ce qui vient d'être dit nous parle de ce qui est tangible. Mais l'olivier est aussi porteur d'une toute autre dimension, une dimension hautement symbolique, sur laquelle il convient de dire quelques mots. Chapitre 2, l'olivier comme symbole. Un mot très rapide sur deux points, puis on s'attardera sur le troisième. Le symbole de l'olivier dans le Coran, le symbole de l'olivier chez les Grecs, et puis le symbole de l'olivier plus longuement dans le judaïsme. Dans le Coran, l'olivier est un arbre béni. Il est même le symbole de l'arbre universel. Et son huile est le symbole de la lumière. Chez les Grecs anciens, la mythologie nous raconte que la massue d'Hercule avait été faite dans un bloc d'olivier, tout comme d'ailleurs le pieu dont Ulysse s'est servi pour crever l'œil du cyclope. Dans le monde grec, l'olivier était le symbole de la force, de la victoire, de la sagesse, de la fidélité, de l'espérance, de la richesse, de l'abondance et de l'immortalité. On va prendre un peu plus de temps pour parler de la dimension symbolique de l'olivier et de son huile, évidemment, dans le judaïsme. Pour les juifs, il représentait la paix, la réconciliation, la bénédiction et le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, son huile prend une dimension transcendante pour dépasser le stade de la pure allégorie, car elle devient en quelque sorte l'encre qui signe, qui désigne ou qui scelle le sacré. Le sacré. Très tôt, dès le livre de l'Exode, Dieu donne à cette huile une aura cérémonielle de tout premier ordre. Exode chapitre 27, juste au verset 20, rapidement, « Tu te procureras de l'huile d'olive fine et vierge pour les lampes de la tente de la rencontre. » Plus loin, nous voyons qu'elle participe aussi aux offrandes. Le texte nous parle de gâteaux sans levain, pétris à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile qui seront présentées en offrande. Mais nous voyons que son importance s'accroît encore lorsque nous apprenons qu'elle devient aussi l'huile de l'onction. Elle était versée sur la tête du prêtre. Elle actait aussi la désignation que Dieu établissait lorsqu'il choisissait un roi pour son peuple. À ce propos, le premier livre de Samuel, au chapitre 16, est très intéressant. J'en lis des extraits, un survol. Au verset 1, s'adressant à Samuel, Dieu dit, « Remplis ta corne d'huile et va chez Jessé, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Verset 10, Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Verset 11, Samuel dit à Jessé, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Samuel dit, « Envoie le chercher. » Verset 12, Jessé l'envoya chercher. Or, il était blond, il avait de beaux yeux, une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, « Confère-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Ainsi, nous le voyons, ce versement d'huile était la signature d'une consécration, c'est-à-dire la marque de ceux qui étaient mis à part ou distingués par Dieu pour être rendus sacrés. Mais à quoi encore pouvait servir cette huile ? Eh bien, elle désignait aussi comme sacré tout ce qui était voué au culte divin, notamment tous les éléments intérieurs du tabernacle, le coffre du témoignage, la table et ses ustensiles, le porte-lampe, etc. La liste est longue et elle s'achève avec ces mots de l'Éternel, « Tu consacreras ces choses et elles seront très, très sacrées. » Voilà pour l'essentiel. J'ajoute, pour en finir avec ce deuxième chapitre, trois détails. Le premier concerne encore le peuple d'Israël. Dieu avait formellement interdit que cette huile entre en contact avec la peau. On ne pouvait pas s'en servir pour les soins du corps. Elle ne devait pas être répandue sur la peau. Voilà pour le judaïsme. Deux derniers détails contemporains. Ils sont anecdotiques mais intéressants. Vous savez que les membres de l'Académie sont appelés des immortels. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme symbole pour montrer qu'ils étaient immortels ? Ils ont fait broder des feuilles d'olivier sur leur habit. Et enfin, dernier détail, le drapeau de l'ONU représente la planète Terre entourée d'une couronne faite de rameaux d'olivier. Troisième et dernier développement, un peu plus long. L'olivier a franchement, là, vous n'allez rien apprendre, est un arbre que l'on cultive. Le premier point, c'est que nous parlons, puisque nous parlons de la culture de cet arbre, il y a des soins d'abord à fournir à la terre sur laquelle il est planté. Un très vieux dicton provençal, peut-être que certains le connaissent, l'ont entendu, dit ceci, n'ayez pas peur. « Unchomelupe, tunchorai lupe. » J'ai entendu des échos. Ça veut dire, si tu me graisses le bec, si tu me graisses le pied, je te graisserai le bec. Ou de façon un peu plus littéraire, si tu prends soin de répandre de l'engrais organique autour de mon pied, je t'offrirai en retour de bonnes récoltes. Deuxième point, l'olivier est un arbre que l'on taille. Et là, il y a aussi deux dictons, mais cette fois-ci en français. Le premier nous dit que une taille d'olivier se pratique en coupant tout ce qui monte, tout ce qui croise et tout ce qui rentre. Et enfin, la deuxième formule, beaucoup plus poétique, nous dit « Un olivier est bien taillé quand une hirondelle peut le traverser en volant. » Troisième point. L'olivier est un arbre que l'on greffe. Voilà un sujet qui n'a pas échappé à l'apôtre Paul. Dans un texte d'une grande densité, d'une grande complexité, il se réfère au principe de la greffe. Et voilà ce qu'il dit dans son épître aux Romains au chapitre 11 à propos des Juifs. Du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-Juifs. La faute des Juifs a fait la richesse du monde et leur défaite la richesse des non-Juifs. Au verset 17 de ce chapitre 11, « Mais, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, l'olivier sauvage, entre guillemets, l'oléastre, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la racine et à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Et toujours à propos des Juifs, l'auteur ajoute au verset 23, « S'ils ne demeurent pas dans le manque de foi, Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, si toi tu as été retranché de l'olivier naturellement sauvage et contrairement à la nature greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. » Voilà. Autant dramatiquement lointain, autant tragiquement lointain de ma jeunesse, les réunions d'évangélisation faisaient partie de la tendance du moment. Leur usage était beaucoup plus fréquent qu'actuellement. Invariablement, au cours de ces soirées auxquelles, bon gré, mal gré, j'avais ordre impérieux d'assister, il y avait toujours, parmi d'autres, un temps fort qui était celui des témoignages plus ou moins spontanés. Il représentait une sorte de sommet ou de pic émotionnel dont nos assemblées, à l'époque, était particulièrement friande. L'intervenant ou l'intervenante, avec un air plus ou moins évangélique, avec une voix plus ou moins éthérée, finissait presque toujours, presque, par énoncer la formule suivante. Depuis que je me suis donné au Seigneur, ma vie a été transformée. Bien souvent, trop souvent, nous pensons que la greffe qui nous rattache désormais à l'olivier franc, et ceci par le mystère de la mort et de la résurrection de Christ, a pour principal effet de transformer nos vies en leur donnant du sens. Et c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, lorsque nous affirmons que Christ a transformé nos vies, nous sommes en totale cohérence avec le message de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous dit que désormais les choses anciennes sont passées et que désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est vrai que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est vrai. Mais alors, pourquoi présenter avec une ironie à peine voilée ce que je viens de dire ? Eh bien, c'est parce qu'il y a un gros problème. Mais alors, gros ? Lorsque nous énonçons que nos vies ont été transformées, nous n'évoquons jamais que le premier effet de la greffe, et non sa finalité. Or, nous aurions grand tort de nous contenter de ce premier effet, car notre salut et par conséquent ses résultats ne se résument pas qu'à ça. Prenons un exemple d'une extrême simplicité. Nous allons poser la question suivante à un arboriculteur. Bonjour monsieur, est-ce qu'une greffe sert à transformer des rameaux pour qu'ils gagnent en robustesse ? Est-ce là le sens, ou plus exactement, le but de la greffe ? Eh bien, mes bons amis, avec une extrême simplicité, l'agriculteur nous dira, mais non, la greffe est pratiquée pour augmenter la production de fruits. Et c'est pour porter du fruit que le rameau gagne en vigueur et en solidité. Le but ou la finalité de la greffe, c'est d'augmenter la récolte, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. C'est difficile à dire, mais il faut avoir le courage de l'avouer. Dans la réalité du vécu quotidien, nos préoccupations de chrétiens et de chrétiennes, hélas, sont beaucoup plus focalisées sur la maintenance d'une morale ou d'une éthique que sur l'impérative nécessité de produire de beaux fruits. Ainsi, dans un idéal ô combien hypothétique, à la question « qu'est-ce que le Christ a changé dans ta vie ?», la réponse complète pourrait ou devrait être: depuis que je me suis donné au Seigneur, ma vie a été transformée. Elle a trouvé un sens. Mais surtout, cette greffe m'a fait passer de la stérilité à la productivité. Du néant de la stérilité spirituelle à la richesse inépuisable de la fertilité spirituelle. Désormais, par grâce, désormais par greffe, j'ai été rendu capable de porter du fruit. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, Jésus ne tourne pas autour du pot lorsqu'il dit ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine. Produisez donc des fruits dignes du changement radical. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. De quel fruit parle-t-on ? Voici trois citations bibliques bien connues. Galates 5, verset 2, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Éphésiens 5, verset 9, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et enfin, dans sa lettre à Tite, au chapitre 3, Paul écrit à propos des frères chrétiens, « Il faut que les nôtres apprennent à exceller dans les belles œuvres afin de ne pas être sans fruit. » Alors, pour rester dans quelque chose de lisible, nous allons établir des ponts avec les jalons que nous avons évoqués au début. Des ponts ou des liens, si vous voulez. Premier lien, que ce soit dans la Genèse ou l'Apocalypse, nous avons vu que l'arbre de vie est toujours placé au milieu, c'est-à-dire là où forcément on le voit. Eh bien, soyons des arbres plantés au milieu. Deuxième lien, l'olivier est un arbre toujours vert. L'expression de notre foi ne doit pas passer par la saison hiver. La sève de l'olivier franc sur lequel nous sommes greffés ne se retire pas pour observer des périodes de repos ou d'endormissement. Troisième lien, nous avons dit que l'huile d'olive avait de grandes vertus curatives. L'huile que fournissent les fruits de l'esprit a elle aussi des effets vertueux sur celles et ceux qui nous entourent. Si les chrétiens sont et des artisans de paix et la lumière du monde, alors les gens qui nous côtoient, à un moment ou à un autre, bénéficient des effets thérapeutiques que procurent les récoltes du Seigneur. Quatrième lien, nous avons parlé de l'olivier comme symbole. Le chrétien ou la chrétienne, rameau greffé, est lui aussi ou elle aussi élevé au rang de symbole, puisque comme ambassadeur de Christ, il est ou elle est une image de paix, de sagesse, de fidélité, de consolation et de réconciliation. Cinquième lien. Dans l'Ancien Testament, l'huile servait ou signait ou attestait, actait une consécration. Lorsque nous annonçons que le salut vient de Christ seul, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'en résultat, des âmes sont sauvées, nous participons comme cette huile à une cérémonie de l'onction. Grâce à l'Esprit Saint qui agit par nous, nous devenons co-auteurs ou co-participants de la consécration de vie nouvelle. Le sixième lien nous conduira gentiment vers la conclusion, je vous rassure. Voici encore trois textes. Les deux premiers sont de l'apôtre Paul et le troisième de Jean l'évangéliste. Éphésiens 3, verset 10. Il m'a accordé la grâce d'annoncer la bonne nouvelle de Christ afin que la sagesse de Dieu soit portée par l'Église à la connaissance des principautés et des autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Nous luttons contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et troisième citation biblique, Évangile de Jean, chapitre 15, Jésus dit « Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits. Deux dernières questions. Pourquoi Jésus dit-il que nous glorifions Dieu quand nous portons des fruits ? Et puis enfin, deuxièmement, quel lien pourrait-on établir entre ces fruits et ces mystérieuses autorités mauvaises évoquées par l'apôtre Paul ? Chacune de ces questions mérite un bouquin de 800 pages. On va faire plus court. On va essayer de dire deux mots à vue humaine et à vue non humaine. À vue humaine. Si nous sommes au milieu de nos semblables, on l'a déjà dit ça, il est alors évident qu'ils nous voient porter les fruits de l'esprit. Ce témoignage central contribue à glorifier Dieu aux yeux des hommes. D'accord ? À vue non humaine. L'olivier franc sur lequel nous sommes greffés se trouve au milieu d'un univers qui nous dépasse totalement, dont nous ne savons rien ou presque. Lorsque l'Esprit du Seigneur nous fait porter du fruit, à notre insu, cette récolte est exposée à la vue des puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Ces fruits sont alors un triomphe de Dieu porté à la connaissance de ses principautés. C'est pourquoi l'Éternel, notre Dieu, et glorifié aux yeux de ses puissances. Nos fruits sont comme autant de victoires qui proclament l'avancement inexorable du règne de Dieu. Il glorifie, il sanctifie son nom. Il proclame que sa volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Conclusion. Ne nous débarrassons pas trop vite de nos petites branchettes d'olivier. Au contraire, je nous invite à les ramener chez nous et à les placer bien en vue dans nos maisons, n'importe où, pourvu que ce soit au milieu. Ainsi, à chaque regard posé sur elles, deux choses au moins se rappelleront à nous. La première, c'est que c'est par grâce que nous avons été greffés, par seule et par pure grâce. La deuxième, c'est qu'elles nous interrogeront sur la qualité et la quantité de fruits que nous sommes censés porter à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, à partir de presque rien, on réalise que le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, nous a aimés au point de nous inclure dans la réalisation de ses plans insondables. Quel vertige! On finit avec un dernier verset. Romains chapitre 15, verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, tout est de lui, par lui et pour. À lui, la gloire pour toujours. Amen.